France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Montaigne, parce que c'était lui, c'est notre série cette semaine. Nouvel épisode ce matin, le moment sceptique de Montaigne. Vers 1576, Montaigne a connu un accès très profond de scepticisme. On sait qu'il a fait frapper à son effigie une médaille représentant une balance dont les deux plateaux étaient équilibrés, aucun ne penchant d'un côté. Cela renvoie à une formule attribuée au père du scepticisme, Pyrrhon d'Élis, qui a vécu à la charnière du 4e et du 3e siècle avant notre ère, qui n'a rien écrit mais dont on parlait des disciples et des historiens. La formule de Pyrrhon, appliquée à toute chose, c'était « ce n'est pas plus ainsi qu'ainsi, ou que ni l'un ni l'autre ». Pas plus, ou malone en grec. Le miel, par exemple, selon le moment où on le déguste et selon ce que l'on a goûté avant, n'est en réalité pas plus doux qu'amer ou qu'aucun des deux. De fait, au milieu du XVIe siècle européen, on commençait à mieux connaître la pensée des sceptiques et notamment la veine pyrrhonienne, peut-être plus radicale que le scepticisme transmis par l'Académie. Dans la décennie 1560, ont été traduits en latin deux textes importants d'un auteur nommé Sextus Empiricus qui avait vécu au 2e et 3e siècle de notre ère et qui distinguait une ligne sceptique plus vertigineuse, plus fidèle à Pyrrhon. Montaigne, dans le chapitre 12 du volume des essais, intitulé « Apologie de Raymond Sebond », montre une connaissance approfondie des sceptiques de toutes sortes, de leurs arguments, parfois appelés « tropes », qui permettent de détruire toutes les certitudes. Que dit Montaigne dans cet essai? Et ce moment sceptique n'a-t-il été chez lui qu'un moment? Bonjour Sylvia Gioconti.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, spécialiste de la philosophie sceptique, antique et moderne. Bonjour Marie-Luce Demonet.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de l'université de Tours, spécialiste des modes d'écriture de la Renaissance, notamment d'Érasme et de Montaigne. Et bonjour Frédéric Brahami.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous travaillez sur des sujets variés, parmi lesquels Montaigne et le scepticisme. Les références de vos travaux à tous trois sont précisées sur le site de l'émission. Nous allons donc analyser ce matin la crise sceptique de Montaigne dans l'essai que je viens d'indiquer, l'apologie de Raymond Sebond. Alors peut-être faut-il commencer par expliquer l'enjeu immédiat et apparent de cet écrit. Je me permets quelques notes biographiques, vous corrigerez, vous prolongerez. Le père de Montaigne est mort en 1568. Il avait demandé à son fils de traduire un texte publié par un médecin et philosophe espagnol, Raymond Sebond, à savoir une théologie naturelle visant à concilier foi et raison. C'était donc un texte qui faisait la part belle à la raison, celle-ci pouvant parler même des vérités de foi. Montaigne a traduit ce texte, mais non sans une ambivalence profonde à l'égard de son père, disparu à ce moment-là. Et dans les années qui suivent, il se lance dans une supposée apologie de ce monsieur Raymond Sebond que son père admirait, mais en réalité, pour faire tout le contraire, détruire les prétentions de la raison et pas seulement en matière de théologie. Sylvia Gioconti, expliquez-nous cette situation qui est en fait celle de l'état d'esprit de Montaigne au début et au milieu des années 1570.
Je pense qu'il ne faut pas cantonner cette, ce qu'on appelait la crise sceptique justement à ce texte et à la traduction de Raymond Sebond. Il est vrai qu'il critique une théologie rationnelle, anthropomorphique, finaliste, et que en ce sens, on peut dire qu'il tient un discours sceptique à propos de la théologie naturelle de Sebond. Mais en même temps, de manière plus générale, l'état d'esprit de Montaigne, c'est aussi, certes, de découvrir Sextus Empiricus, mais également de réagir par rapport à la découverte de l'Amérique et aussi par rapport aux guerres des religions, des événements donc du temps qui également suscitent un contexte qui explique son scepticisme, qui est donc lié à une crise peut-être politique et sociale de manière plus générale, mais qui, au sein de sa philosophie, n'est peut-être pas un moment à isoler, puisqu'on peut considérer que, dès lors, Montaigne considère que la condition humaine est incertaine, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut en dire ne peut pas être dit à partir d'un discours métaphysique, et dès lors, il semblerait que le scepticisme renvoie à cette difficulté de manière plus générale, qu'il y a à dire les choses autrement que telles qu'elles nous apparaissent d'une manière fluctuante et instable.
Marie-Luce de Monet, êtes-vous d'accord, sachant que, j'ai tenté de le dire rapidement en introduisant cette émission, la connaissance au milieu du XVIe siècle des grands courants sceptiques, avec des efforts de traduction, etc., est nette. Hein. On commence à vraiment mieux connaître. Donc peut-être, c'est une question, Montaigne, s'instruisant beaucoup, évolue.
Oui, je suis d'accord avec Sylvia, ce n'est pas un moment sceptique, c'est un moment qui a duré vraiment, vraiment longtemps, en tout cas jusqu'à sa mort. On le voit justement dans les modifications de ces rédactions, avec les différentes éditions qui montrent justement des évolutions, ou du moins des modifications. Et le scepticisme n'est pas seulement de voir les choses de façon égale, tout se vaut, mais c'est aussi un exercice de jugement, et donc les plateaux de la balance n'ont pas toujours été immobiles, et il y a des moments où il faut choisir. Donc le rapport du scepticisme à la question de l'action, et notamment de l'action politique, est un élément important et qui va être modifié aussi en fonction des événements historiques qu'il aura, comme ses contemporains, à subir.
Et vous, êtes-vous d'accord, Frédéric Brahmi? Ce que j'entends là, c'est que sans doute ça commence à un moment donné de sa vie. Il n'a pas toujours été un grand sceptique. Il est de plus en plus cultivé aussi sur ce que ça veut dire. Mais ce que vous dites toutes les deux, c'est que ça a duré ensuite toute sa vie. Je ne vous trahis pas là, c'est bon. Alors, Frédéric Brahmi, et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense comme Marie-Luce et Sylvia qu'il n'y a pas un moment sceptique dans la vie de Montaigne, qu'en effet il est sceptique, même si c'est un scepticisme très singulier qui se distingue beaucoup du scepticisme ancien. Et ce n'est pas par hasard, si on traduit Sextus Empiricus au XVIe siècle, hein, il y a vraiment un bouleversement des coordonnées, disons, intellectuelles, du savoir et de la religion au XVIe siècle. Lundi, vous avez parlé d'Écoche. Hein, les coches, c'est-à-dire les voitures, et en fait, Montaigne a le mal de mer. C'est-à-dire que ce qu'il dit dans des coches, c'est que le monde entier est en train de devenir un petit peu vertigineux, perd ses repères, perd sa stabilité, et à partir de là, alors il perd ses repères parce qu'on a découvert l'Amérique, et puis il perd ses repères aussi parce que la physique aristotélicienne commence à être remise en question, la vieille cosmologie commence à être remise en question, nous sommes avant Descartes et Galilée, donc nous sommes dans une espèce d'entre-deux, d'interrègne intellectuel, et puis surtout il y a les guerres de religion qui sont d'une violence inouïe, et tout ça fait qu'il n'y a plus de repères suffisamment stables, et je crois que c'est pour ça qu'on s'est intéressé au scepticisme au XVIe siècle, et que Montaigne a élaboré son scepticisme à lui en lisant Sextus Empiricus et Cicéron.
Alors, on va entrer dans le détail de sa dette, au fond, à l'égard du scepticisme ancien. Je voudrais juste dire, c'est un peu à l'intention des personnes qui nous écoutent, qu'il y a eu des travaux variés sur le scepticisme de Montaigne. Et des travaux qui ne disent pas tous qu'il était fidèle à ce scepticisme ancien, et des travaux aussi pour dire qu'à un moment, il en est quand même sorti du moment sceptique. Je veux juste dire que ça existe. Donc, par exemple, on va parler de son rapport à la foi. Marcel Conge, grand monsieur de la philosophie ancienne, insiste sur le fait que un grand sceptique pyrrhonien ne pourrait pas évoquer même Dieu avec autant de certitude. Il y a autant de probabilités qu'il y ait des dieux qu'il n'y en ait pas, etc. Et deuxièmement, Bernard Sèvres, qui est venu chez nous lundi, dans le premier épisode de cette série sur Montaigne, a écrit dans son livre sur Montaigne que clairement Montaigne n'aime pas l'instabilité, vous venez de le dire Frédéric Brahmi, il a un peu le mal de mer, et qu'à un moment donné, il va avoir une sorte de, d'étrange retournement, je le cite, en faveur de la coutume. Quand il est à choisir quelque chose, choisissons ce qui a duré et ce qui est la coutume. Et en parlant de retournement et de nouvelles règles, Bernard Seff suggère que c'est quand même une sortie du scepticisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric ? Ayons cette discussion un peu générale avant d'entrer dans le détail, si vous le voulez bien.
Alors, c'est sûr que Montaigne sort du scepticisme, si l'on entend par scepticisme, le scepticisme ancien, puisqu'il ne cesse de dire que lui n'arrive pas à se tenir à la, à l'époque, hein, à la, à la, à la, à l'égalité des représentations contraires, et que, en ce sens-là, Montaigne dit, je ne peux pas m'empêcher d'adhérer à la dernière représentation ou à la plus forte. Donc, on pourrait dire, bah, il est sorti du scepticisme. Sauf qu'en fait, comme il détruit toute valeur de vérité à cette dernière représentation, il fait un constat d'ordre psychologique ou épistémologique qui consiste à dire « Je ne peux pas m'empêcher de donner mon assentiment à une représentation quand elle est vive, mais je sais très bien qu'elle n'a pas de valeur de vérité. » Moi, je pense que ça s'appelle du scepticisme. Simplement, c'est un scepticisme qui a dépassé l'idée du scepticisme antique selon laquelle, à une représentation donnée A, on peut toujours opposer une représentation non-A qui a le même poids et qui nous empêche de conclure.
Montaigne dit simplement... Donc il y a un croire, parce que vous évoquez beaucoup, voilà. C'est vraiment la question du croire hein, qui est au centre du problème, ce sont vos mots. Et ce croire, il peut être fondé. Alors peut-être que Marcel Conge, qui parle des Pyrrhoniens anciens, dirait d'une impulsion agissante. On a des impulsions qui produisent des croyances dans le temps des actions, mais ce qui compte, c'est qu'on ne les théorise jamais comme du vrai, c'est ça
oui,
que vous dites.
Oui, oui, absolument.
Et donc, ça reste du scepticisme.
En ce sens, l'élève lointain de Montaigne, c'est Hume. C'est-à-dire qu'il y a un fait de la croyance qui est trop fort pour que nous puissions remettre en question ce que nous croyons. Mais il reste que ce que nous croyons, ça n'est jamais qu'une croyance. Et toute croyance en tant que telle, elle est infondée en raison.
Qu'en pensez-vous, Sylvia Jocanti ?
Alors déjà, pour revenir sur la coutume, à mon sens, la coutume n'est pas une objection au scepticisme de Montaigne, puisque Montaigne écrit que la fonction de la coutume, c'est de donner forme à notre vie et aussi de nous éduquer à la variation. C'est-à-dire que la coutume est à prendre aussi comme une puissance métamorphique, comme un breuvage de Circé, qui est susceptible d'accompagner la diversité des choses du monde et effectivement de leur fournir une structure, mais qui est toujours prise dans le cours de l'histoire, si bien que finalement, on peut dire qu'il y a une théorisation de la coutume qui, à mon avis, est en parfaite harmonie avec ce qu'on peut considérer comme sceptique chez lui, terme qui a une fonction, qui a une connotation, trop dépréciative, qui vient de Saint-Augustin, surtout avec le vocabulaire de la crise, alors que je pense qu'il y a quelque chose de très positif dans le scepticisme pour Montaigne. Si on entend par scepticisme, effectivement, une manière de penser l'irrésolution qui consiste à s'y résoudre et à partir de là, à penser la croyance simplement comme des moments où la pensée se stabilise, mais d'une manière provisoire qui n'est jamais définitive, sachant que même si, comme vient de le dire Frédéric Brami, on ne peut pas ne pas croire, mais il faut aussi savoir que ces croyances sont toujours des points d'appui provisoires et il est sage de savoir revenir sur nos croyances et de bien se ressourcer en quelque sorte sur la base de cette instabilité première qui est celle de notre esprit.
Est-ce que néanmoins des textes dans les essais comme celui où il dit qu'entre deux coutumes, il vaut mieux l'ancienne, la nouvelleté n'est pas un très bon signe, c'est très clair, c'est explicite, c'est dans le titre d'un de ses essais, est-ce que ça ne montre pas tout de même qu'il se donne une règle de tri de la coutume? Je ne dis pas qu'elles sont dans la vérité, je ne dis pas cela du tout, mais simplement qu'il y a quand même des règles de tri, et donc ça veut dire que ce n'est pas un pur relativisme.
De la coutume, le titre est de ne changer jamais une loi reçue. Donc ce qui compte, c'est la réception. Et cette réception, elle varie au fil du temps. Donc à chaque fois, on retombe dans la variation. C'est-à-dire qu'il faut être capable aussi de modifier les coutumes, d'introduire de la variation lorsque le peuple ne peut pas recevoir, lorsque les règles ne sont plus en accord avec les mœurs telles qu'elles ont évolué. Donc il me semble que c'est pas une
objection. En même temps, je le dis aussi aux personnes qui nous écoutent, il y a un enjeu politique derrière. La nouvelleté, c'est le protestantisme et par rapport à nos coutumes chrétiennes anciennes. Et là, il montre son choix lié à l'habitude. Et évidemment, ça pose aussi la question du Montaigne politique qui sera au cœur de notre émission de demain. Marie-Luce de Monet, vous êtes exactement du même avis que nos deux autres invités. Il n'y a pas des règles, comme dirait Bernard Sève, dans élaborer pour choisir entre des options élaborées par le dernier Montaigne en particulier.
Si, alors, de toute façon, la coutume, il tient à la coutume, si on peut dire, dès son passé comme conseiller au Parlement de Bordeaux. Mmh. Il a travaillé sur la coutume, le rapport entre la coutume et la loi, des lois qui sont plus ou moins bien reçues. Et effectivement, le protestantisme apparaît comme une nouveauté par rapport à, au moins, à cette loi religieuse qui était celle du catholicisme dans le royaume de France. Donc la coutume a aussi ses vertus, même si elle est critiquable. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage-là, justement, dans ce chapitre, il ne vise pas seulement le côté caractère nouveau et radical du protestantisme, mais aussi le rejet de la loi salique par ceux qui voulaient justement changer la dynastie du royaume et ne pas appliquer la coutume qui était de ne pas confier ou ne pas que la transmission de la royauté puisse se faire par des femmes. Et ça, c'est important parce que effectivement, ça va fonder ses choix politiques aussi, qui sont de suivre les royaux, de suivre les politiques, pas seulement de rester dans le camp des catholiques, mais d'accepter cette coutume dont il admet que personne ne l'a jamais vue.
Mais il conserve quand même. Geste de conserver.
Et Piron est un conservateur, en tout cas dans ce concept.
C'est pas ce que dit Marcel Conge, vous en convenez.
Quand on lit, en tout cas, la vie de Piron dans Eugène Laërce, c'est quand même c'est très clair. Il est conservateur. Il est même. Il finit sa vie comme notable et comme notable, il a même fait exempter d'impôts définitivement tous les philosophes, ce qui est quand même un élément tout à fait remarquable.
Alors merci, on va revenir à Piron. Bon, moi j'en étais restée à des anecdotes peu conservatrices. Pendant les campagnes d'Alexandre le Grand, on dit qu'il a tapé par terre avec son pied pour suggérer que de toute façon tout le monde revient à la terre et à la poussière. C'est un peu subversif, quoi. C'est pas vraiment conservateur. Et c'est vrai que Marcel Conche, philosophe important du XXe siècle, nous dit qu'au fond, même sur la question du divin, les Pyrrhoniens et Piron lui-même émettaient des doutes subversifs.
On peut être d'accord là-dessus, oui.
Oui. Alors, à vous, peut-être, pour le scepticisme ancien, Sylvia Gioconti. Donc, Piron n'a rien écrit. Marcel Conche fait grand cas d'un disciple qui s'appelle Timon, qui a vécu à peu près au début du 3e siècle avant notre ère. Enfin, il est né en 315, il est mort en 225. Il y a aussi un certain Énésidème, né en 100 et mort en 40. Il y a Agrippa, il y a d'autres gens. Pourriez-vous nous donner une idée de la radicalité sceptique, du vertige sceptique dans lequel tous ces gens nous plongent? Encore une fois, à l'arrière-plan, il y a ma question, est-ce que Montaigne est aussi vertigineux que lui qui quand même établit des règles de choix? Mais bon, ce vertige sceptique ancien, quel est-il?
Alors, je reviens à partir des règles de choix, je reviens au scepticisme ancien. Ces règles, elles ne sont fondées ni sur la nature, ni sur la raison. Et c'est ça la radicalité du scepticisme ancien comme moderne, il y a des points communs, c'est d'estimer que les règles auxquelles on s'astreint n'ont pas de fondement rationnel ni naturel, qu'elles sont arbitraires. Et donc, d'un point de vue philosophique, c'est très intéressant et singulier et radical, parce que ça veut dire que ce n'est pas la raison qui est susceptible de rendre compte et de valoriser notre vie. Donc, à partir de là, effectivement, on peut respecter des choses qu'on considère malgré tout comme arbitraires, et c'est-à-dire qu'on admet qu'elles puissent être autrement ailleurs. Donc ça, c'est quand même, je pense, un point commun entre toutes les traditions sceptiques. Et pour ce qui est de Montaigne, qui hérite, alors Piron, c'est peut-être un peu plus délicat parce qu'il a surtout les anecdotes de Diogène Laërce qu'il a du mal lui-même à interpréter, comme tout le monde. Mais disons que pour ce qui est de Sextus et de la Nouvelle Académie, peut-être que chez Sextus Empiricus, ce qui est radical et qu'il conserve, c'est cette notion d'irrégularité des choses telles qu'elles nous apparaissent, l'anomalia, hein, qui fait que justement on ne peut pas ramener à l'unité d'une règle les choses telles que se manifestent à nous. Et donc la régularité, là encore, elle n'est pas fondée sur la raison. Et peut-être ce qu'il emprunte à la Nouvelle Académie, qui est très important, c'est une pondération des jugements d'estimer les choses à l'aune du vraisemblable, aussi un refus de l'autorité, une revendication d'une liberté intellectuelle, parce que en arrière-plan de la Nouvelle Académie que Montaigne connaît par Cicéron, il y a tout un combat contre le stoïcisme, contre des figures du rationalisme qui sont justement des figures du dogmatique pour Montaigne. Et la différence, et peut-être ce qui renforce aussi en même temps la radicalité chez Montaigne, c'est d'inscrire dans l'écriture même, par la forme de l'essai, c'est d'inscrire les phénomènes et de rapporter les phénomènes. Donc je pense que c'est ça l'important, c'est l'inscription, c'est ça qui est moderne, c'est alors que les sceptiques anciens ne cherchaient pas à philosopher sur les phénomènes, mais seulement sur ce qu'on disait des phénomènes, Montaigne, lui, a une philosophie où il enregistre les phénomènes. Voilà, et c'est dans le genre de l'essai, essai sceptique. Il écrit bien que si sa pensée pouvait s'asseoir, il n'écrirait pas des essais, il se résoudrait. Et donc l'essai, de manière, le genre même de l'essai est défini à partir de cette incapacité à asseoir sa pensée.
Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de l'Apologie de Raymond Sebond, qui est l'essai numéro 12. Du deuxième volume des essais, où il parle directement des philosophes pyrrhoniens, suggérant, et ça c'est assez fidèle, enfin il me semble, mais vraiment là je pars sous votre contrôle, à quelque chose du pyrrhonisme, à savoir qu'on a des outils pour détruire les certitudes, pour nous purger en quelque sorte, mais ensuite l'outil, eh bien on l'évacue aussi, ce qui fait qu'il n'y a jamais rien qui reste du vertige destructeur à l'égard des dogmes, c'est infini. Écoutez cet extrait.
Je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur générale conception en aucune manière de parler, car il leur faudrait un nouveau langage. Le nôtre est tout formé de propositions affirmatives qui leur sont absolument ennemies, de façon que quand ils disent « je doute », on les tient un continent à la gorge pour leur faire avouer qu'au moins assurent et savent-ils cela qu'ils doutent. Ainsi, on les a contraints de se sauver dans cette comparaison de la médecine sans laquelle leur humeur serait inexplicable. Quand ils prononcent « j'ignore » ou « je doute », ils disent que cette proposition s'emporte elle-même avec le reste, ni plus ni moins que la rhubarbe qui fait sortir les mauvaises humeurs et du coup s'évacue elle-même. Cette fantaisie est plus sûrement conçue par interrogation « que sais-je ?» comme je la porte à la devise d'une balance.
La balance que Montaigne a mise sur sa médaille de 1576. Je reviens encore vers vous, spécialiste du scepticisme ancien, Sylvia Giocanti. Donc, il semble y avoir là, en arrière-plan, un débat. Est-ce que les sceptiques ne savent pas toujours quand même quelque chose? C'est le fait qu'ils doutent. Et le pyrrhonisme, forme plus vertigineuse, irait même jusqu'à jeter cette ultime certitude. C'est comme la rhubarbe, ça c'est très montanéen comme genre de comparaison, qui finalement aide à nous purger et puis s'élimine elle-même par la purge. Je vous écoute parce que c'est pas évident quand même à comprendre.
Alors oui, c'est vrai que c'est très montaignien, au sens où son écriture est pleine de métaphores et des métaphores qui déplacent tout ce qu'on peut dire de l'esprit vers le corps. Donc en ce sens, cette métaphore vient de Sextus Empiricus, mais le fait qu'il la conserve n'est pas un hasard. Néanmoins, je pense que justement ce qui est nouveau, c'est que autant les sceptiques anciens finalement été réduit au silence, puisque ne pas pouvoir se prononcer, c'est finalement élaborer, soit comme Piron se taire, soit élaborer un discours qui s'auto-élimine. En revanche, dans les essais, justement, le discours ne s'emporte pas, il reste. Les discours, Montaigne est un discours de la prolifération qui soutient sans cesse la pensée au moyen d'un doute, qui n'est pas un doute suspensif, qui est une reconduction et non une suspension, une reconduction perpétuelle du jugement. Je pense que c'est ce qui est très intéressant, cette image de la balance, c'est le point de départ. Pour pouvoir s'exprimer autrement que par interrogation, il faut inventer un genre, qui est le genre de l'essai, et au moyen duquel, c'est ce qu'il explique dans le chapitre 8 du livre 3, on jette à la balance les opinions des autres. C'est la métaphore, lorsque le plateau d'une balance est vide, je jette dans l'autre les rêveries d'une vieille, parce que même si on n'y arrêtera pas notre jugement à ceci, ça a quand même un peu, l'inanité même peut avoir un peu de poids, ça mérite qu'on l'écoute, qu'on l'examine. Et il ne faut pas oublier que le scepticisme, avant d'être une pensée du doute, le terme de scepticisme renvoie à l'examen. Ça, je pense que c'est ça le plus important.
Frédéric Brahmi, vous vouliez ajouter quelque chose? Vous m'avez fait signe, là.
Je ne sais pas si je vous ai fait signe, mais oui, non, mais je vais aller dans le même sens que Sylvia. C'est-à-dire que, en fait, bon, le langage est dogmatique. C'est ce qu'il dit dans le texte qu'on vient d'entendre. Le langage est dogmatique, et donc, comme nous ne pensons qu'à travers le langage, comment pouvons-nous échapper au dogmatisme? Et la solution de Montaigne, ça consiste en effet dans une écriture des essais dont Jean-Yves Pouillou avait dit dans son premier livre « Lire les essais de Montaigne » que ces essais sont constitués par un énoncé, puis la critique de cet énoncé, puis la critique de la critique. Donc en effet, il ne s'agit pas pour Montaigne de suspendre son jugement et d'arriver à une isosténie, hein, une égalité de force des représentations contradictoires. Il s'agit plutôt, en multipliant infiniment les représentations, d'embrasser la totalité ou le plus possible de ce qui est pensable et de transformer l'isosténie qui encore est dogmatique chez les sceptiques anciens en asthénie. C'est-à-dire nos représentations, c'est pas qu'elles sont de force égale. Dieu existe ou Dieu n'existe pas, ça n'est pas de force égale, c'est qu'elles n'ont aucune force. Et ça met en mouvement une pensée qui ne s'arrête jamais. Souvent, on a objecté aux sceptiques ou on les a critiqués en disant qu'au fond, finalement, avec cette isosténie, on arrête de penser. Bon, je pense que ça n'est pas exactement ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrête de juger. Le coup de génie philosophique de Montaigne, c'est de dire on ne peut pas arrêter de juger, mais ce qu'il faut faire, c'est multiplier les jugements de façon indéfinie, afin d'éviter les pièges du dogmatisme enveloppé par nature dans le langage.
Alors, qui dit croyance sans cesse réexaminée, dit langage, écriture, prolifération, avez-vous dit, Sylvia Jocantis, c'est votre terrain d'études privilégiées, Marie-Luce de Monet, l'usage de l'écriture, le langage de la Renaissance. Pouvez-vous nous parler un peu de cette langue sceptique de Montaigne?
Alors, je dois beaucoup aux travaux d'André Tournon, qui a montré comment, justement, dans les corrections que Montaigne a apportées sans cesse à ses essais, il y a une pensée, enfin, au moins un usage du scepticisme. Et ce langage coupé, qui a été identifié comme tel, et c'est une citation de Montaigne, hein, ce langage coupé, c'est pas un langage qui arrête les choses, mais qui, au contraire, suspend pour qu'on puisse continuer à réfléchir et à ajouter. Et en fait, il ne trouve pas ça tout de suite, Montaigne, hein, parce que dans les essais de 1580-1582, il n'y a pas encore le que sais-je, c'est en 1588. En revanche, dès les années 1576, il a déjà fait peindre la devise sceptique, epeco, je suspends mon jugement. Mais plus tard, il va trouver la formule interrogative, que sais-je, qui est beaucoup plus puissante, et elle aussi absolument géniale, mais il ne l'a pas trouvée tout de suite. Quelque part entre 1582 et 1588, on ne sait pas trop exactement, on pourrait dire peut-être 1584 ou 85, enfin peu importe, parce qu'on a un sceau avec un cachet de la balance sur une lettre de Montaigne qui permet de dater grossièrement justement cette cette façon d'approcher le scepticisme par son dépassement, si je peux dire comme ça. Et ce dépassement, on le voit jusque dans les dernières corrections de Montaigne sur son texte avant sa mort, hein, qui sont visibles sur l'exemplaire de Bordeaux. Mmh. On voit qu'il modifie les graphies, il modifie la ponctuation, et parfois il revient sur ces modifications pour revenir à la première forme, parce qu'il est toujours en train de chercher non pas ce qui est parfait, mais ce qui est meilleur que ce qui a été écrit, et parfois il dit c'est pire. Voilà, donc il a aussi cette réflexivité qui lui permet d'interroger ses propres revirements, on ne peut pas parler de revirements, mais ses propres retours en arrière ou ses reprises. Voilà.
Alors diriez-vous que le scepticisme marque son texte presque tout le temps, en tout cas dans l'Apologie de Raymond Sebond? Il y a ce que les spécialistes appellent des tropes, c'est-à-dire ce sont des techniques que les pyrrhoniens ont léguées, si j'ai bien compris, qui permettent d'argumenter avec fermeté et clarté contre tout dogme. Donc par exemple dire ben ça c'est extrêmement relatif à une position, à un point de vue, enfin il y a des techniques, est-ce qu'il les utilise, est-ce que vous le sentez dans l'écriture? Et deuxièmement, peut-être cela n'est-il pas typique de Montaigne, je ne sais pas, il y a ce qu'on appelle des farcissures, c'est-à-dire des citations dont les auteurs ne sont jamais donnés. Donc le texte est plein de citations cachées. Il y a un côté pirate, quoi. Enfin, est-ce que tout cela est typique de Montaigne ou ça vaut au-delà de Montaigne?
Alors, c'est assez fréquent chez les auteurs de cette époque-là de citer, effectivement, et notamment de citer en latin sans qu'il y ait les références, parce que les humanistes, les élèves des écoles humanistes connaissaient tout cela très bien et savaient identifier des vers de Virgile immédiatement. Certains auteurs que Montaigne a lus sont plus difficiles à identifier. On a vraiment besoin de notes de bas de page. Et cette farcissure, à la fois il l'assume et en même temps il la regrette. Il dit si on m'avait laissé faire, j'aurais parlé tout fin seul, tout seul sans cet aéropage de personnalité dont il truffe effectivement son texte. Donc il y a des éléments comme ça de variété qui marquent ce phénomène de reprise du texte et notamment grâce au texte d'autrui.
Alors, je vais vous interroger aussi, Frédéric Brahamim, je voudrais, parce que c'est tellement lié à ce que vous écrivez, vous écrivez par exemple « L'homme est un animal qui croit » pour Montaigne, je voudrais qu'on pose le problème de la croyance quand elle arrive, parce que Montaigne analyse le fait qu'il croit pourtant en plein de choses, mais simplement il détruit ses croyances, il s'auto-détruit. Néanmoins, à chaque fois qu'il croit, dit-il, j'y suis tout entier. Ce qui pose un problème pour un sceptique. Écoutez cet extrait.
Ce que je tiens aujourd'hui et ce que je crois, je le tiens et je le crois de toute ma croyance. Tous mes outils et tous mes ressorts empoignent cette opinion et m'en répondent sur tout ce qu'ils peuvent. Je ne saurais embrasser aucune vérité ni conserver avec plus de force que je n'embrasse celle-ci. J'y suis tout entier, j'y suis vraiment. Mais ne m'est-il pas advenu, non une fois, mais 100, mais 1000, et tous les jours, d'avoir embrassé quelque autre chose avec ces mêmes instruments, en cette même condition que j'ai depuis jugée fausse? Au moins, faut-il devenir sage à ses propres dépens. Si je me suis trouvé souvent trahi sous cette couleur, si ma touche se trouve ordinairement fausse et ma balance partiale et injuste, quelle assurance en puis-je prendre à cette fois plus qu'aux autres? N'est-ce pas sottise de me laisser tant de fois piper à un guide? Toutefois, que la fortune nous remue 500 fois de place, qu'elle ne fasse que vider et remplir sans cesse, comme dans un vase dans notre croyance, autres et autres opinions, toujours la présente et la dernière, c'est la certaine et l'infaillible.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de Montaigne cette semaine, c'est notre série. épisode d'aujourd'hui, le moment sceptique de Montaigne. Et mes invités nous disent qu'il est certainement durable. Une fois qu'il est devenu un grand sceptique cultivé en matière de scepticisme, Montaigne n'aurait donc pas quitté cet état. Néanmoins, il croit fortement parfois, donc il se trompe, affirme-t-il, mais il y retourne, il croit encore. Comment entendez-vous l'extrait qui vient d'être lu, Frédéric Brahami ?
Alors c'est un texte où c'est un des textes les plus importants où Montaigne est en train d'inventer un nouveau scepticisme à partir du scepticisme ancien, puisque ce que nous dit Montaigne ici, c'est que il ne peut pas s'empêcher de donner son assentiment à la dernière des opinions qu'il a. Et que l'époque sceptique, la suspension du jugement, en fait, ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passait dans le pyrrhonisme ? Donc, je mets devant moi des représentations et je les compare, je les pondère, je les mets à la balance, et jusqu'à arriver à une égalité de poids des représentations, ce qui me fait sortir de la croyance. Ce que Montaigne dit ici, c'est que dans l'exercice même de ce pyrrhonisme,
oui.
Lui, il arrive à une toute autre conclusion. Il arrive à une toute autre conclusion en disant « ma balance est fausse ». Chez les pyrrhoniens, la balance est bonne. Elle permet de mettre en équivalence les représentations. Chez Montaigne, il n'y a plus de pierre de touche, il n'y a plus de balance. Et c'est précisément pour ça qu'on ne peut pas arriver à l'égalité de poids des représentations, de sorte que c'est toujours la dernière, ou la plus forte, si vous voulez, qui emporte l'assentiment. Alors vous allez me dire, bah donc il croit. Oui, il croit, mais justement, je trouve qu'il est en train d'élaborer un concept moderne de croyance totalement ignorée des anciens, à savoir que mon assentiment est contraint, je suis bien nécessité à croire à cause de la force de la représentation, mais cela n'implique en rien que ma représentation ait quelque valeur de vérité que ce soit. Et ça, c'est une rupture très très profonde qui ouvre le scepticisme moderne, pour autant que le scepticisme n'est plus tant une pratique, vous parliez des tropes, des techniques,
oui.
C'est une pratique épistémologique, le scepticisme ancien. Il s'agit de penser de telle manière que on ne donne pas son assentiment facilement. Ce que Montaigne dit, lui, ce qu'il invente, c'est un scepticisme réflexif et non plus épistémologique. Il constate qu'il ne peut pas s'empêcher de croire. Et donc, il ouvre par là même l'exigence d'une enquête sur ce que signifie croire, étant donné que, entre la croyance et le savoir, la rupture est radicale.
Alors, ça nous ramène au problème que j'ai commencé à évoquer au début. Car l'apologie de Raymond Sebon, qui n'est pas du tout une apologie, qui est une critique des théologies rationnelles, qui croit pouvoir prouver par la raison des vérités de foi, finit par un passage important, un peu étrange aussi, où il dit par quoi il faut conclure que Dieu seul est, etc. etc. C'est une croyance. Peut-être nous a-t-il mis en garde contre le fait que toutes les croyances, eh bien, à un moment, peuvent se détruire, mais en même temps, il termine sur celle-là. Donc, c'est un peu difficile. Est-ce une sortie du scepticisme ? Est-ce du fidéisme ? C'est-à-dire une manière de dire que seul le cœur connaît ses vérités et la raison n'a rien à voir dedans. Mais même l'affirmation fidéiste, c'est encore quelque chose comme une certitude, normalement les sceptiques ne font pas cela, donc on est un peu embêté par cette fin. Sortie du scepticisme ou prolongement ironique du scepticisme, je vous propose tout simplement d'écouter cette fin et je vous écouterai ensuite chacun des invités de ce matin sur ce problème.
Mais qu'est-ce donc qui est véritablement ? Ce qui est éternel, c'est-à-dire qui n'a jamais eu de naissance ni n'aura jamais fin, à qui le temps n'apporte jamais aucune mutation. Car ces choses mobiles que le temps et qui apparaît comme en ombre avec la matière coulante et fluente toujours, sans jamais demeurer stable ni permanente. Dans la nature non plus, il n'y a rien qui demeure, ni qui soit subsistant, ainsi y sont toutes choses, ou nées, ou naissantes, ou mourantes. Par quoi il faut conclure que Dieu seul est, non point selon aucune mesure du temps, mais selon une éternité immuable et immobile, non mesurée par temps, ni sujette à aucune déclinaison. À cette conclusion si religieuse d'un homme païen, je veux joindre seulement ce mot d'un témoin de même condition. « Oh, la vile chose, dit-il, est abjecte que l'homme, s'il ne s'élève au-dessus de l'humanité. » Voilà un bon mot et un utile désir, mais pareillement absurde. Car de faire la poignée plus grande que le poing, d'abrasser plus grande que le bras, et d'espérer enjamber plus que l'étendue de nos jambes, cela est impossible et monstrueux. Ni que l'homme se monte au-dessus de soi et de l'humanité, car il ne peut voir que de ses yeux, ni saisir que de ses prises. Il s'élèvera si Dieu lui prête extraordinairement la main. Il s'élèvera, abandonnant et renonçant à ses propres moyens, et se laissant hausser et soulever par les moyens purement célestes. C'est à notre foi chrétienne, non à sa vertu stoïque, de prétendre à cette divine et miraculeuse métamorphose.
Texte énigmatique, Silvia Giocanti. Au début, il emploie beaucoup l'indicatif, il fait de la métaphysique, quoi. Et puis, Dieu seul est, on peut en conclure, etc. Puis après, il dit, mais peut-on vraiment s'élever au-dessus de ce qu'on est et faire des choses pareilles? Et puis, en même temps, il dit, l'homme s'élèvera si Dieu lui prête la main. Et si je puis me permettre, il ne semble pas tellement en douter, là. Mais bon, c'est, je sais bien que c'est compliqué de dire.
Il en doute vraiment, dans la mesure où que Dieu prête la main est une chose extraordinaire, qui relève du miracle, et que l'homme, avec ses propres moyens, n'a pas justement la possibilité de s'élever. Et donc, par les propres moyens qui pourraient être la vertu stoïque, parce que la philosophie renvoie à des moyens humains et rationnels, par nos propres moyens, nous n'avons pas justement cette possibilité d'une transcendance. Et le début du texte est une citation d'un texte de Plutarque qu'il malmène, dans la mesure où Plutarque voulait, en opposant l'éternité au devenir, inciter les hommes à prendre pour modèle tout ce qui était éternel, alors que Montaigne le malmène, Montaigne qui peint l'être et non pas qui peint le passage, qui ne traite à point nommé de rien que du rien, c'est du non-être, c'est-à-dire du non-être. Tout ça, c'est des citations de Montaigne. Donc Montaigne qui peint l'être et peint le passage ne suit pas du tout Plutarque dans sa recommandation et au contraire installe l'homme dans sa condition, une condition humaine qu'il doit accepter. Et pour ce qui est de la foi, en général, nous croyons croire, on croit croire et on ne croit pas véritablement. Et la plupart des gens sont chrétiens comme ils sont périgourdins ou allemands, si bien que la foi renvoie également à des pratiques sociales. Et la religion est très importante et il est catholique, je ne suis pas du tout en train de contester ça. Mais disons que tout ce texte n'invite pas du tout à une forme de christianisme qui imprégnerait sa philosophie au sens d'une quête d'une réforme de soi, d'une spiritualisation de l'existence, d'une sublimation de l'homme à partir de modèles transcendants et universels, puisqu'au contraire, pour lui, c'est essayer de sublimer l'homme ainsi, c'est le rendre monstrueux, c'est l'abîmer. Et donc, je pense qu'on peut très bien commenter ce texte aussi à l'aune d'auteurs, non pas d'auteurs chrétiens, mais d'un auteur comme Nietzsche, qui salue en Montaigne le fait qu'il n'invite pas à une réforme de soi qui reposerait sur un refus de l'humanité dans ce qu'elle peut avoir de vicieux. D'estimer vicieux notre être, c'est abominable, c'est une horreur pour Montaigne. Donc il y a au contraire, je pense, une exigence qui n'est pas chrétienne au sens où tous les essais ne sont pas du tout un discours qui achemine vers la foi, ce qui serait le cas du fidéisme, même par d'autres moyens, en disant bon, il faut attendre que Dieu vienne en aide. Il ne se tourne pas vers ce qui serait une sorte de donation sublime, qui viendrait qui serait derrière nous, qui viendrait d'une source originaire. Et donc, en ce sens, je trouve que ce texte n'est pas très différent de la fin du chapitre 13 du livre 3, qui conclut, et c'est la fin des essais, qu'au plus élevé trône du monde, nous ne sommes assis que sur notre cul. Je pense que...
exprimée. Je voudrais vous demander. Il s'élève, dit Montaigne, l'homme, si Dieu lui prête extraordinairement la main. Donc c'est vrai qu'il peut douter que cela arrive. Peut-être que Dieu ne nous prêtera aucunement la main. Le point que je trouve non parfaitement douteux, c'est Dieu. C'est-à-dire, à aucun moment, il l'ajoute « et si Dieu existe ?»
Absolument.
Il n'envisage pas... Et ça, quand même, ça aurait été parfaitement sceptique. Nous ne nous élèverons à la connaissance de Dieu que si Dieu nous prête la main. Et si Dieu existe? Et ça ne n'est pas dans le texte. Donc je veux dire par là que c'est difficile de ne pas sentir incroyant à la fin, à cause de ce point qui n'est pas mis en doute. Qu'est-ce que vous en pensez?
Effectivement, qu'il croit, c'est une chose, mais sa philosophie n'est pas une philosophie qui repose sur la croyance, puisque ce qu'il recommande, ce qu'il préconise dans tous les essais, c'est finalement d'approuver l'existence telle qu'elle est, de jouir loyalement de notre être, et non pas d'essayer de réformer notre nature en considérant que notre nature a été abîmée par le péché et qu'il faut la réparer. Donc, en ce sens, c'est une philosophie qui n'est pas chrétienne, même si, comme mode de vie, parmi les coutumes, il y a toutes, et c'est très important, il y a toutes ces pratiques chrétiennes et catholiques auxquelles il est très attaché. C'est bien pour ça aussi qu'il n'est pas réformé, parce que le catholicisme s'accompagne de pratiques qui engagent le corps et qui sont plus concrètes, je pense, que celles des réformés. Donc il y a plusieurs éléments, sans doute, qui expliquent qu'en effet, il reste catholique, mais je pense que ça, c'est un élément qui est important.
Mais est-ce que vous seriez d'accord, Marie-Luce de Bonnet, donc, pour dire que quand même, il termine ce texte, alors non pas sur un christianisme évident, simple et dogmatique, mais sur une certitude de l'existence de Dieu qu'il ne met pas en doute, même si Dieu ne peut ne pas nous aider. Et à ce titre, est-il sceptique à la fin du texte ou abandonne-t-il subrepticement le scepticisme?
Mais ce n'est pas sûr que ce soit le Dieu des chrétiens.
C'est tout à fait, même, c'est pas du tout sûr, en effet.
Voilà, ça pose quand même problème. En tout cas, il en veut surtout aux stoïciens, pas aux sceptiques. Parce que finalement, quand il met en avant « nous sommes chrétiens comme nous sommes périgourdins ou allemands », c'est un trope sceptique, hein, c'est tenir compte des circonstances. Hein, donc, des circonstances. Et cette proposition conditionnelle, si Dieu lui prête extraordinairement la main, elle est effectivement elle mise en balance, hein, ce n'est pas du tout évident que la divinité arrive, même si les derniers mots sont des mots pratiquement de saint Paul, hein, la miraculeuse métamorphose.
C'est vous qui l'aurez dit, hein.
Voilà, mais tout le monde le savait, tout le monde a reconnu effectivement cela, sauf que métamorphose, c'est aussi un terme qui est utilisé dans les philosophies païennes, ça n'est pas spécifique.
Oui, mais ma question n'est pas, est-il chrétien ou païen? De toute façon, il dit clairement qu'il est les deux, et bon. Mais c'est le fait que ça se termine sur Dieu, le langage, disiez-vous, Frédéric Brahmi, est dogmatique pour un sceptique. Il ne le serait pas si immédiatement il disait « ce Dieu que je nomme, s'il existe là, il détruirait le dogmatisme du langage ». Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Qu'en pensez-vous, Frédéric Brahmi?
Vous posez la question du contenu qu'il donne à l'idée de Dieu, finalement. Hein, et est-ce que cette idée de Dieu enveloppe la nécessité ou pas d'y croire? Bon. Que dit-il de Dieu dans les essais? Beaucoup de choses, du Dieu des chrétiens. Hein, il dit « nous n'avons aucune analogie à la divinité ». Nous n'avons aucune analogie à la divinité, c'est une destruction de toute la théologie médiévale, puisque nous avons normalement une analogie à la divinité. Nous sommes imago Dei, image de Dieu, et le fait que nous soyons image de Dieu nous met en communication avec lui. Lui, ce qu'il dit, c'est au fond que nous n'avons aucune conception claire et distincte de Dieu. Il n'y a pas d'idée claire de Dieu. C'est un signifiant vide, Dieu, pour Montaigne, en quelque sorte. Ou presque un signifiant flottant. C'est-à-dire, c'est un mot qui se trouve déposé dans le langage et dans les coutumes, dans les pratiques religieuses, qui nous dit que Dieu est, etc. Mais si on regarde le concept de Dieu tel qu'il est déposé dans la coutume théologique, il n'a aucun contenu susceptible d'être appréhendé. Donc déjà, il n'y a pas d'idée de Dieu. Et c'est en ce sens que je suis d'accord avec Sylvia quand elle dit que dans le fidéisme, il y a encore quelque chose comme une attente de Dieu. Moi, je pense que Montaigne n'est pas fidéiste au sens propre du terme, mais qu'il utilise le fidéisme comme un outil pour détruire la théologie. Et donc,
mais il ne détruit pas le fidéisme derrière. Le fidéisme, je précise aux auditeurs encore une fois, c'est la certitude du cœur contre les certitudes de la raison en concernant l'existence de Dieu.
Mais, oui, mais là, le langage...
le fidéisme le met-il en cause? Il n'a pas écrit « si Dieu existe ». Il n'a pas auto-détruit la chose. «
Si Dieu existe » n'est pas un argument qui vous permet d'en conclure qu'il pense que Dieu existe.
Vous pensez qu'à la fin de cette apologie,
oui, je pense.
Il met en doute l'existence de Dieu ?
C'est pas qu'il met en doute l'existence de Dieu, c'est que c'est plus radical que ça. Mmh. C'est qu'il est en train de nous dire que cette discussion, cette question n'a pas d'objet.
Ah,
il aurait cessé d'être sceptique s'il avait décidé absolument dogmatiquement que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce qu'il dit dans ce texte, selon ma lecture ? Il dit, bon, il y a des gens qui croient en Dieu. S'ils croient en Dieu, alors ils s'élèveront à Dieu à condition que Dieu leur prête main, ce sera miraculeux, parce que ce n'est pas dans la nature humaine de s'élever à Dieu. Oui. Franchement, on est à un doigt d'une position athée, et s'il ne formule pas d'athéisme, je crois que ce n'est pas seulement par prudence, parce qu'il n'a pas envie de finir mal, parce que là, déjà, il se met très en danger, hein, dans un texte comme ça, c'est très hérétique.
Même en finissant sur saint Paul ?
Oui, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'au fond, il n'a pas à décider, lui, parce qu'il est sceptique, si Dieu existe ou pas. Ce qu'il dit, c'est soyez cohérents, vous les croyants, vous accéderez à une condition supérieure, moralement, spirituellement, non pas en vous élevant vous-même sur vos petits ergots, mais si Dieu vous prête la main.
C'est
une manière véritable. Enfin, pour moi, c'est une manière d'évacuer, sans prendre position, mais d'évacuer toute spiritualité chrétienne et toute affirmation sur Dieu. Donc je pense que le texte confirme le scepticisme de Montaigne.
Et vous, Sylvia Joconti, vous en êtes d'accord aussi. Il faut rappeler, et peut-être Marie-Luce de Bonnet peut en dire un mot rapide, juste avant, que les sceptiques étaient souvent considérés comme des incroyants. C'était une injure au XVIe siècle. Ne veut-il pas déjouer cela ? Et s'il veut déjouer cela, n'avoue-t-il pas que... il pense avec Dieu et toujours avec Dieu, ce qui n'est pas sceptique, etc. Vous voyez, il y a peut-être quand même un peu de prudence. Enfin, c'est la question que soulevait Frédéric Brahmi.
Oui, sans doute. Et que quand il dit c'est notre foi chrétienne, c'est aussi la sola fide protestante, hein, luthérienne, qui est derrière. Et donc, c'est vraiment risqué. Chaque mot qu'il écrit là, et c'est un risque qu'il prend. Donc, il ne pose pas effectivement la question de l'existence de Dieu. Mais il met en avant quand même la supériorité de la question de la foi chrétienne. Donc, c'est difficile de dire ça, c'est le fidéisme. Je ne pense pas que ce soit fidéisme au sens habituel du terme. Mais c'est quand même cet élan de foi qui est important.
Ah, ben, vous êtes celle qui finit. C'est le plus sur ce point que je me suis permis de soulever avec beaucoup de questions. Vous allez avoir le dernier mot, Sylvia Joconti.
Bon, alors moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Frédéric Brahmi. Je pense que, de toute façon, ce qui est important, c'est l'usage des références, plus que leur présence. C'est pas parce qu'il y a une... Sénèque est cité, Plutarque, qui a Saint-Paul en arrière-plan, qu'il est d'accord avec chacun d'entre eux. Le scepticisme est un examen des opinions, et à la différence de Sextus Empiricus, justement, Montaigne n'est pas adoxastos.
Sans opinion,
merci.
Tout le monde ne parle pas aussi bien que vous.
Il n'est pas sans opinion, sans croyance. Ce qui importe, c'est la position que l'on a vis-à-vis de ses croyances, la distance qu'on est capable de prendre vis-à-vis de ses croyances, le recul, la mise en perspective, la confrontation aux croyances et aux opinions des autres pour ne jamais sombrer dans le dogmatisme et dans les formes les plus virulentes du dogmatisme qui concrètement sont des formes de fanatisme. Et je crois que c'est ça peut-être le plus important aussi pour lui.
Merci beaucoup, c'est un très joli dernier mot pour Montaigne. De toute façon, un certain nombre de questions concernant la religion et la politique vont être abordées demain, puisque nous allons faire un épisode sur le Montaigne politique. Et c'est pas toujours l'aspect le plus connu de Montaigne, mais il y a beaucoup de travaux là-dessus que nous explorerons demain. Pour aujourd'hui, merci Sylvia Joconti, Marie-Luce de Monet et Frédéric Brahmi. Je renvoie aux références de vos travaux qui sont précisés sur le site de notre émission. À présent, c'est la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine a pour thème la force des arguments. Voici le pourquoi du comment.
Comment prouver la limite d'une preuve ? Dans l'histoire de la science, de la philosophie, de la politique même, chez les êtres humains, il y a toujours eu besoin de démonstration, il y a eu besoin de raisonnement, il y a eu besoin d'argumentation. On ne peut pas défendre une thèse sans dire pourquoi. Il faut produire des preuves, des arguments à l'appui. Mais pour autant, on peut aussi contester ces preuves. Et d'ailleurs, face à des positions qu'on appelle parfois dogmatiques, mettons même celle d'Aristote, hein, qui paraît simple, Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel, il y a le sceptique qui va venir tout de suite. Il va dire, bah, comment savez-vous que tous les hommes sont mortels? Comment savez-vous que Socrate est un homme? Et le saurez-vous pour tel ou tel autre? Bref, le scepticisme menace toujours. Et Pascal l'a bien dit dans les pensées, il y a une tentation dogmatique à la vérité et une tentation sceptique dans notre esprit qui fait que nous ne pourrions rien prouver, que rien ne serait prouvable. Et alors, nous serions dans le chaos le plus concret. En réalité, le besoin de preuves, d'argumentation et de rationalité s'accompagne toujours d'un souci critique, c'est-à-dire de démontrer la validité des arguments qu'on apporte et peut-être de délimiter aussi les preuves qui sont accessibles à l'esprit humain en général. C'est le travail, évidemment, qu'a fait justement un moment critique de l'histoire de l'humanité où à la fois les sciences progressaient, mais le doute aussi, un peu comme aujourd'hui. Le savoir sur le monde progressait, on découvrait que la Terre tournait autour du Soleil et d'un autre côté, l'incertitude aussi, car comment le prouver de manière absolue puisque cela réfute une partie de notre expérience. La science progresse avec le scepticisme. Comment trouver des critères entre les deux? C'est le travail de la critique, de la raison pure. Quant à une démarche très simple, il dit que nos arguments sont valables jusqu'où va notre sensibilité, notre expérience sensible des choses. Dès qu'on déborde, on tombe dans la sphère de ce qu'il appelle l'illusion. Ainsi, vous pouvez trouver des causes à tel ou tel phénomène, mais la cause première de l'univers, vous ne pouvez pas. Vous avez débordé, personne n'en sait rien, vous n'étiez pas là, vous n'y serez jamais. Ainsi, la cause de l'univers, la preuve de l'existence de Dieu, par exemple, sur lesquelles les philosophes se sont battus pendant des siècles, Kant dit « je ne sais pas ». Là-dessus, c'est peut-être la morale qui va nous dire, le cœur humain, mais pas la raison. Ainsi, comme disait Pascal, eh bien, Dieu sensible au cœur, Dieu sensible à la pratique, mais pas démontrable par la raison, Kant l'accepte d'une certaine façon, tout en disant bien, cela ne fera pas preuve. Il faut prouver les limites de nos preuves. La véritable argumentation s'accompagne d'une théorie des limites de l'argumentation, des limites du raisonnement possible, jusqu'où nous ne pouvons pas aller. De mon côté, par exemple, je soutiens que nous savons du vivant qu'il s'oppose à la mort, nous savons que la vie est ce qui résiste à son contraire. Est-ce que cela nous dit pour autant ce qu'est la vie avec une majuscule, ce qu'est la mort avec une majuscule aussi? Je n'en sais rien. Il faut pouvoir à un moment dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Il faut pouvoir prouver les limites de notre connaissance, y compris expérimentale, et les principes de cette connaissance qui vont permettre de la faire progresser. Ainsi, les sceptiques, les menteurs qui s'appuient sur les faiblesses d'une argumentation, qui y introduisent des mensonges, ils s'appuient toujours sur des faiblesses que la force d'une vraie argumentation consiste à reconnaître, à assumer, à délimiter. La réponse aux doutes dévastateurs, aux complots et aux mensonges, ce sont donc les armes les gens, de la critique.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Anna Feulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El-Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.